RFI Soir.
Édition spéciale.
Guillaume Ouattara.
RFI 16h10. RFI 16h10, en temps universel, il y a donc eu de la fumée blanche à la cheminée de la chapelle Sixtine. On saura dans quelques instants qui est le 260e pape catholique, puisqu'il fera sa première apparition depuis la loggia centrale de la basilique du Vatican. Et on va tout de suite partir du côté de Rome pour vous faire vivre évidemment cette édition spéciale avec nos envoyés spéciaux, puisqu'il y a quelques instants, eh bien, la fumée blanche est apparue sur la cheminée de la chapelle Sixtine. Qu'est-ce que ça veut dire, cette fumée blanche? Ça veut dire évidemment que nous avons un nouveau pape, que les catholiques ont un nouveau pape. Pape que l'on va connaître dans quelques instants. Une fumée blanche qui s'est élevée dans le ciel de Rome. Un signe universel que l'Église catholique a un nouveau pape. Ce soir, quelque part dans les couloirs feutrés du Vatican, un homme vient d'accepter la plus haute responsabilité spirituelle au monde. Il vient de dire « accepto, j'accepte » aux cardinaux réunis en conclave. Il n'est donc plus cardinal, il est pape. Dans l'instant qui a suivi cette acceptation, le cérémonial s'est enclenché. Le cardinal doyen lui a demandé « quel nom choisis-tu ?» Et ce nom, celui qu'il porte jusqu'à la mort, est déjà consigné quelque part dans les archives éternelles de l'Église. C'est donc le 260e pape catholique qui va donc être découvert par le monde entier. Une découverte qui va se faire d'ici une heure, puisque le cérémonial est très précis autour, eh bien, de cette élection du nouveau pape. Le pape est conduit actuellement dans la sacristie, dite des larmes, un nom bouleversant, car c'est là que l'émotion bouleverse en général les papes nouvellement élus. On va essayer de partir du côté de Rome, si vous le voulez bien.
Ça serait mieux par WhatsApp.
Du côté de Rome avec nos envoyés spéciaux. Bonjour.
Non, bon, d'accord. Alors, mais plus fort, parce que j'entends très mal.
Alors, on va être avec nos envoyés spéciaux d'ici quelques instants. Nous sommes d'abord avec Geneviève Delrue. Bonjour, Geneviève.
Oui, bonjour.
Vous êtes évidemment spécialiste des questions religieuses, des questions catholiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui est en train de se passer? Fumée blanche au Vatican.
Eh bien, fumée blanche, si on fait le calcul, hier il y avait un vote, ce matin il y a eu deux votes, et là un troisième, donc au total ça fait quatre votes. Donc en fait, ça veut dire que le nouveau pape aura été élu avec quatre tours, ce qui est très court en fait. C'est exactement comme pour François. Pardon, excusez-moi. C'est exactement comme pour Benoît XVI, qui avait été élu au quatrième tour. Donc, ça veut dire qu'en fait, les cardinaux ont trouvé le candidat, ont trouvé le compromis très vite. Et ce n'était pas quand même complètement gagné, parce que l'on sait qu'il y a des courants conservateurs et un courant, comment dirais-je, progressiste. Ce n'était pas gagné parce qu'ils viennent du monde entier et qu'ils ne se connaissaient pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'hypothèse moi que j'émets, c'est qu'il y a eu un cardinal qui a eu une parole forte. Vous savez, quand il y a eu l'élection du pape François en 2013, ça s'est fait sur une phrase, semble-t-il, du pape François qui avait dit qu'il fallait aller aux périphéries du monde. Et cette phrase avait marqué. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a été élu, même si précédemment, au conclave précédent, il était déjà effectivement bien placé. Donc là, il y a peut-être eu un cardinal qui, en effet, a eu une phrase forte, qui a impressionné et que les votes se sont concentrés finalement rapidement sur sa personne. Ou alors, deuxième hypothèse, ils ont choisi, peut-être le cardinal Parolin, on verra, mais en tous les cas, un homme de la curie, avec une bonne expérience, quelqu'un qui est capable de, comment dirais-je, d'apporter un peu de, j'allais dire, de stabilité, de calme, après 12 ans d'un pontificat qui a en effet quand même, faut bien le dire, remué la curie et remué l'Église. Donc deux hypothèses, ou bien effectivement un homme, j'allais dire un pape qui sera un pape un peu de sérénité en quelque sorte, de compromis, d'apaisement, un pape effectivement qui pourra à la fois satisfaire quand même ceux qui veulent que les réformes continuent, parce que c'est bien ça la question, est-ce que les réformes vont continuer? Ou bien, bon, effectivement, voilà, un pape qui arrive à concilier, je dirais, les deux grands courants au sein du collège des cardinaux, voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
C'est des hypothèses.
Geneviève, qu'est-ce qui se passe en ce moment au cœur du Vatican? Le vote vient d'être effectué. On a vu il y a quelques secondes cette fumée blanche. Là, qu'est-ce qui est en train de se passer pour ce nouveau pape?
Eh bien, les cardinaux vont prêter. D'abord, on va demander au pape s'il est d'accord. Bon, il est d'accord, manifestement, puisqu'il y a la fumée blanche. Bon. Mmh. Ensuite, une fois qu'il y a son accord, les cardinaux vont prêter allégeance au nouveau pape. Ils prêtent allégeance, c'est un moment évidemment très fort. Et puis, après, le pape va revêtir une eau blanche. Il y a trois tailles, voilà. Donc on ne sait pas, ce sera un pape de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille, voilà. Absolument. Il y a trois possibilités. Bon, ça laisse le choix quand même. Hein. Et puis après, donc il y a le cardinal protodiacre, qui est le cardinal Manberti, qui est un Français, qui va donc sortir à la loggia de la place Saint-Pierre. Et il va prononcer en latin, bien sûr, la tradition continue, eh bien, nous avons un pape. Il va prononcer son prénom en latin, et le nom de famille, bien sûr, restera celui-ci, il ne sera pas latinisé. Il prononcera son nom, et c'est là où le nouveau pape, donc, sortira sur la loggia, et puis parlera, ou bien sûr, aux pèlerins et au monde. En fait, il parlera à la ville et au monde, il donnera sa bénédiction, urbi et orbi. Et là, c'est intéressant. La première, ça sera la première bénédiction urbi, c'est-à-dire à la ville de Rome, parce que le pape, c'est l'évêque de Rome, et puis au monde, parce que le pape, c'est le chef de l'Église catholique universelle, je rappelle, 1,4 milliard de chrétiens, enfin de catholiques.
Alors, oui. Combien de temps va se dérouler entre cette fumée qu'on a vue il y a une poignée de secondes, il y a quelques minutes maintenant, et l'apparition du nouveau pape sur la loggia?
Il faut être patient. Hein. Là, il faut compter à peu près pratiquement une heure. D'accord. 45 minutes, minimum 45 minutes. Parce que bon, il y a effectivement ce que l'on vient de dire, cette allégeance des cardinaux, le pape qui va revêtir ses premiers habits. On verra d'ailleurs comment il est habillé. Vous vous souvenez de François qui sort effectivement, il était habillé en blanc. Il n'avait pas de, il me semble, si ma mémoire est bonne, ça n'avait pas d'étole. Il avait voulu vraiment, et c'était tout à fait d'ailleurs là le signe annonciateur en quelque sorte de son pontificat, une sorte de dépouillement, ce qui explique qu'après il ira habiter Sainte-Marthe, qu'il ne voudra pas habiter dans les palais pontificaux, etc. Mais donc, malgré tout, la tenue dira quelque chose. Ça dira quelque chose du nouveau pape. Ça sera une sorte de message, je pense, oui.
Merci beaucoup, Geneviève Delruy. On va vous retrouver, évidemment, tout au long de cette édition spéciale pour suivre cet événement. Je le rappelle, si vous nous rejoignez sur RFI, ça y est, un nouveau pape a été élu par ses pairs. Et on va justement prendre la direction de Rome, où on retrouve Véronique Guémard. Bonjour, Véronique.
Bonjour, bonjour à tous.
On imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions du côté de Rome et du Vatican.
Ah oui, dès que la fumée blanche est sortie et que les cloches de la basilique Saint-Pierre ont retenti pour confirmer que la fumée était bien blanche, donc il y avait bien un pape qui était élu, c'était l'effusion d'émotions, de cris, ça continue, il y a des gens qui courent même. Là, moi je me trouve un petit peu en retrait pour avoir un petit peu de signal, pour pouvoir vous parler justement, parce qu'il y a énormément de monde qui court et qui essaye d'atteindre la place Saint-Pierre pour être au rendez-vous lorsque le nom du pape sera annoncé et qu'il s'avancera dans peut-être une demi-heure, on ne sait pas très bien, sur la loggia du Vatican au-dessus de la place Saint-Pierre et qu'il prononcera ses premiers mots. Et donc pour l'instant, c'est la surprise, on ne sait toujours pas qui est le fameux élu.
Eh bien, merci beaucoup Véronique Guémard, envoyée spéciale de RFI en direct de Rome et du Vatican. Évidemment, on va vous faire vivre tout au long de cette soirée cette annonce du nouveau pape, puisqu'il y a quelques minutes, ça y est, la fumée blanche est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine. On va passer en édition spéciale d'ici 17h, temps universel. En attendant, c'est donc Radio Foot que vous retrouvez sur RFI.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être là, d'avoir patienté une dizaine de minutes pour écouter et suivre Radio Foot International. Nous sommes évidemment en lien avec les nouvelles qui viennent du Vatican, mais nous allons vous parler aussi football, football et finale de Ligue des Champions. Avec cette finale inédite, PSG-Inter-Milan en Ligue des Champions. Donc, hier soir, les Parisiens ont rejoint les Interistes après avoir battu au retour, comme à l'aller, les Gunners d'Arsenal. Une rencontre tactiquement maîtrisée où le gardien Donnarumma a une fois encore brillé. Le PSG, bourreau des clubs anglais cette saison, le club va-t-il faire briller le championnat de France désormais hors de l'Hexagone? Nous allons en parler. Soulagés d'une si longue attente, les supporters parisiens ont fêté cette qualification au stade et dans les rues de Paris avec la finale pour horizon face aux expérimentés joueurs de l'Inter Milan, finaliste il y a 2 ans. Nous essaierons de nous projeter en vue de cette finale qui se disputera le 31 mai. Invité dans ce studio, ça donne envie d'ajouter des cœurs et c'est d'actualité. Bonjour Carlos Bianchi.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre pape à nous aujourd'hui. Vous êtes ouais. Ici dans ce studio pour nous parler football, bien sûr.
Pour mon âge. Ah,
oui, puis parce que vous êtes argentin quand même.
Franco-argentin.
Hein, oui, franco-argentin. Et même parigo-argentin aussi parfois, n'est-ce pas? Bonjour Dominique Sévrac, autre parigo dans la place.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour Dominique. Salim Boumgali, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. La fumée blanche est à côté de moi au final, hein, quand je vois le pape qui est à côté de moi comme ça.
On a l'impression qu'il est là présent.
Ouais, c'est ça.
David Finzel m'a aidé à préparer cette émission avec Laurent Salerno, Radio Foot. C'est parti.
C'est fini ici au Parc des Princes sur cette victoire du Paris Saint-Germain.
And Paris Saint-Germain are into the final of the Champions League for only the second time in their history.
2-1 face à Arsenal. Et cette qualification pour la finale de la Ligue des Champions.
Paris est magique. Je crois que cette fois, Dominique, ce refrain qu'on entend si souvent au Parc des Princes et parmi les supporters, on peut le dire, on peut l'affirmer. Le PSG a atteint la finale de la Ligue des Champions, une qualification qu'il ne cesse de fêter ou de commémorer depuis le coup de sifflet final. Coup de sifflet final et libérateur. Hier soir, la victoire sur Arsenal en demi-finale sur le score de 2-1. Au retour, ça faisait 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Au retour, comme à l'aller donc des victoires, cela signait une qualification attendue, espérée et somme toute logique au vu des derniers résultats de cette équipe du Paris Saint-Germain. La joie bruyante des joueurs sur la pelouse, dans le vestiaire comme vous le venez de l'entendre, eh bien au micro de Cédric de Oliveira, elle était aussi palpable avec le latéral Nuno Mendes.
C'est un grand jour pour nous, on est fiers, on est contents pour aujourd'hui, tous les supporters parisiens. C'est toujours important d'avoir des supporters comme ça et qui nous soutiennent depuis le début et ils vont continuer jusqu'à la fin, et lui et nous aussi. On est contents, il manque un match pour aller au bout.
C'était donc un match et surtout une qualification très attendue. Carlos Bianchi, vous aviez l'honneur d'être en tribune hier soir au Parc des Princes, entouré d'anciens joueurs et de toutes les personnalités invitées. En tant qu'ancien joueur du club de Paris, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Et je suis content parce que j'ai vécu une autre époque. À l'époque, on n'avait pas d'argent.
C'était les débuts du Paris Saint-Germain. C'est un club, rappelons-le, né en 1970. Et vous y avez joué peu de temps après.
C'était l'époque du beau maillot du Paris Saint-Germain.
Le fameux de Daniel Echter.
Mais je pense que c'était
une belle soirée.
Une finale attendue.
Oui.
Paris Saint-Germain et Arsenal, je le dis la semaine dernière, tu te rappelles, Dominique, pour moi, Arsenal, c'est une équipe moyenne, c'est pas une grosse équipe.
C'est vrai.
Par contre, l'Inter, il a battu Barcelone. C'est pour ça que j'aurais bien voulu qu'il soit Barcelone.
Au lieu comme adversaire. Comme
adversaire. Mais Paris, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a eu la chance au bon moment, parce que les premières minutes, au bout de 10 minutes, il aurait bien pu être mené 3-0.
Ouais.
Il n'avait rien à dire. Et mais Donnarumma, il a dit présent, comme jamais, je pense, il a fait. Et
est-ce que ça, les gens étaient contents autour de vous, attendaient ça comme un événement, ou est-ce qu'il y avait une ambiance particulière, vous qui avez l'habitude d'y aller en tribune?
À la place où nous nous trouvons, c'est pas pareil. Je pense que les gens de la tribune, tout ça, sûrement que pour eux, c'était un rêve. Et il y aura, je sais pas, il y aura 20, 30 000 qui seront là-bas. Et
18 000 officiellement.
Combien ?
18 000.
Ils ont officiellement. 18 000. Officiellement.
Oui. Mais je pense que pour Paris, c'est bien. C'est ouais. bien. Vous savez, ils le cherchent depuis longtemps, et surtout la France qui la cherche la finale aussi. De la Coupe.
Aussi. Dominique, vous suivez le Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années, avec de nombreuses déconvenues.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez ressenti hier quand même en voyant que cette équipe enfin atteignait son Graal et quand même un certain Graal dans le monde du football ?
Bon, j'ai pas été
bouleversé.
Surpris, parce qu'à partir du match aller, j'avais compris que Paris était plus fort qu'Arsenal, même s'il fallait évidemment valider le ticket. J'avais pas de crainte, une espèce de déconvenue finale. L'année dernière, j'avais pas senti cette force contre Dortmund. Donc là, j'avais senti que depuis le début de la Ligue des Champions, en tout cas depuis 2025, Paris ira en finale contre l'Inter, comme je vous l'avais annoncé, Annie, après les quarts de finale.
C'est vrai.
Mais en revanche, je suis surpris qu'il soit en finale.
Vous savez aussi le résultat de la finale ?
Non, malheureusement, non. Mais je suis surpris que ça arrive aussi vite après l'arrivée de Luis Enrique. On n'est pas au bout de la deuxième année et il en passe de faire un triplé. Il peut gagner la Coupe de France le 24 mai, une semaine avant. Et la finale Ligue des Champions, et aller en finale, c'est quand même très dur, on le voit quand même. Barça, je sais pas
combien de buts il
faut. Il faut qu'il mette 2 buts pour arriver en finale, mais en tout cas, en mettre 6, ça suffit pas. Donc, donc c'est très très dur. Et d'être en finale dès sa deuxième année, après avoir fait une demi-finale l'année dernière,
c'est ce qui vous étonne.
Je trouve que ça, c'est très rapide par rapport à la construction du projet.
Cédric de Oliveira, bonsoir.
Salut Annie, salut tout le monde.
Cédric, vous étiez dans le Parc des Princes, vous aussi, hier soir, et vous avez relaté ce match sur RFI. Qu'est-ce que vous avez senti ou vu de cette qualification et de cette réussite hier soir du Paris Saint-Germain ?
Bah, on a senti beaucoup de joie, de fierté, beaucoup d'émotion au Parc des Princes. C'est vrai que Dominique, qui est en studio, peut en parler, mais il y a eu beaucoup de déconvenues pendant plusieurs années au PSG. Et il y avait un emblème, c'était Marquinhos. Voir le capitaine du PSG comme ça, avec cette fierté, lui qui a connu la remontada, qui a connu l'élimination face à Manchester, l'élimination face au Real Madrid. Voilà, il y avait une sorte de communion autour de ce PSG, de ses supporters, des suiveurs aussi. Voilà, il y avait en tout cas un joli mood pour reprendre la langue des Anglais, des Gunners. Et c'est appréciable de voir ce sentiment autour du PSG qui n'a pas toujours dégagé autant de sympathie et autant d'enthousiasme autour de lui ces dernières années.
Ouais. Salim.
Deux choses, parce que déjà, lorsqu'il y a eu cette première finale, c'était en 2020, on était donc en période Covid. Ouais. Cette festivité, entre guillemets, et cette fête qui a eu lieu hier au Parc des Princes, elle n'avait pas eu lieu à l'époque, forcément, avec ce Final Eight qui avait lieu au Portugal.
Tournoi final de Lisbonne, là.
Absolument, ça me fait penser, il y a quelques semaines, lorsque Liverpool a fêté son titre. Pareil, c'était pendant la période Covid qu'ils avaient eu le titre de champion. Ils n'avaient pas pu le fêter. Là, ils ont pu le fêter en public. Et puis hier, une chose, parce que Carlos l'a très bien dit, Arsenal a eu des opportunités, notamment en première période. Il y en a eu d'autres, même en seconde. Bref, Arsenal était sur le principe plutôt bon hier, match aller non, mais au match retour aussi. Et malgré cela, malgré le fait que le PSG était par séquence dominé, le PSG a gagné. Et ça, c'est fort parce que cette saison, le PSG a été globalement plutôt dominateur contre Liverpool, Villa, autres, on en parlera. Là, ça n'a pas été forcément le gain. Et au final, le PSG gagne. Ça, c'est quand même un signe.
C'est dans la ligne de ce que vous dites, Carlos, hier. Il y en a certains parlé d'une victoire éclatante. Mais hier soir, ce n'était pas une victoire éclatante Paris Saint-Germain.
C'est une victoire. C'est une victoire.
C'est le plus mauvais match du PSG en Ligue des Champions.
C'est le plus
mauvais match en 2025. C'était du PSG. Le PSG, on n'a pas vu le PSG habituel. Absolument. En 2025. Oui. On n'a pas vu celui qui domine, celui qui prend l'ascendant. On a vu un PSG qui subit, qui ne pouvait pas ressortir le ballon, qui n'avait pas développé son jeu.
D'ailleurs, le but survient à un moment où ils sont dominés
bien
par
sûr,
ce
coup de pied arrêté,
le
fameux coup de pied arrêté dont on disait qu'Arsenal était le spécialiste. On a même vu des touches. On est revenu dans les footballs des années 80 et des touches de Thomas Partey.
Ouais, Thomas Partey
qui faisait 30
mètres.
Vous
les avez racontés hier.
Mais ça, c'était rigolo. Et non, Paris a été dominé. Voilà.
Alors, on va écouter l'entraîneur des Gunners, des perdants, donc Mikel Arteta, parce qu'il avait du mal à se résigner à cette élimination, même à froid.
Franchement, à 100%, je pense qu'il n'y a pas eu meilleure équipe que nous dans cette compétition jusqu'ici. Ce soir, on est éliminés et sur les deux matchs, on méritait clairement mieux. Mais voilà, cette compétition se joue dans les surfaces. Et dans les surfaces, ce sont souvent les attaquants et le gardien. Et leur gardien, lui, il a été le meilleur joueur sur les deux rencontres. Maintenant, ce que je ressens, c'est surtout de la fierté. Fierté pour mes garçons. Ils méritent un énorme respect pour ce qu'ils ont accompli, compte tenu du contexte, de la situation et du nombre de blessés qu'on a eus. Et malgré ça, on a été compétitif. Alors oui, ça me donne beaucoup d'optimisme pour l'avenir, mais ce soir, je suis vraiment très déçu.
Alors, il a quand même été élégant parce qu'il a aussi, en tant qu'ancien Parisien, souhaité à Paris de gagner la finale. Mais Carlos, quand vous entendez ça, vous, en tant qu'ancien entraîneur, vous vous dites quoi ? Il est de mauvaise foi, il est mauvais joueur ou bon, il parle à ses dirigeants aussi ?
Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est pas. Je le dis.
Vous n'avez pas vu le même match que Mikel Arteta
aujourd'hui. Pour moi, c'est Arsenal, c'est pas une équipe que ça me plaît beaucoup. Et je suis franche. Franchement, je vous dis la vérité, les premières 20 minutes d'Arsenal, c'était extraordinaire. Si le match était 2-0, 3-0, c'était pareil. Mais pour moi, il n'a jamais joué si bien Arsenal. Ce n'est pas une grosse équipe. Et je crois que ce qu'il dit, lui, en plus, il n'a pas un avant-centre.
Bah oui, ils sont blessés.
Ils sont blessés, les deux. Havertz blessé, Jesus blessé, Nwaneri trop jeune. Deux qui préfèrent jouer sans neuf. Ça vous désespère, ça.
C'est Arsenal. Je peux comprendre que le Stade de Reims, il n'a pas d'avant-centre. Mais Arsenal, qui dépense autant d'argent, tu n'as pas un avant-centre en réserve.
Ce que vous dites, à juste titre, c'est vrai que Arsenal a souvent été critiqué, notamment cette saison, sur la première partie de saison. Lorsqu'on se disait, attention, c'est risqué, Jesus s'est blessé assez tôt dans cette saison. On leur disait, vous allez jouer qu'avec Havertz sur toute la seconde partie de saison, vous êtes sûr que vous ne voulez pas acheter quelqu'un.
Ça se répète souvent, Arsenal.
Les blessures, effectivement, ça se répète souvent. Et beaucoup ont évoqué, cet hiver, il faudrait quand même acheter quelqu'un devant. Ils n'ont pas osé le faire. Et Arsenal, au final, d'ailleurs, je me permets juste cette petite digression, est très moqué dans la presse anglaise parce que. On leur dit, regardez encore cette année, Liverpool, et je l'ai repris cela dès hier soir, Liverpool va être champion d'Angleterre, d'Angleterre, City en finale de Cup va peut-être gagner la Coupe d'Angleterre, United va peut-être gagner l'Europa League, Chelsea va peut-être gagner la Conference League, même Newcastle a gagné la Coupe de la Ligue, et au final Arsenal, une nouvelle fois, rien. 5 années sans titre, là où tous vos autres concurrents vont ou possiblement gagner quelque chose.
De...
5 ans.
Ouais, il est pas lucide, Arteta, parce que pour moi, au contraire, qui ai vu les deux finales, c'est la plus faible équipe des quatre. C'est-à-dire que Inter de Milan, Barcelone, Paris, Arsenal, c'était la plus faible, Arsenal. Oui. Donc, alors certes, ils ont beaucoup de blessés, tout ça, mais par exemple, offensivement, à part Saka, Martinelli Merino.
Même Martinelli.
Ça produit rien.
Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est très moyen. Il aime bien courir sur son côté, mais à part ça,
c'est rien.
Cédric, est-ce qu'il s'était vu trop beau à l'issue de l'élimination?
C'est ce que je voulais vous dire.
Alors, de l'archi-favori peut-être, mais en tout cas, cette année, ils n'étaient pas ultra bons. Mais c'est après l'élimination du Real où ils nous avaient tous impressionnés quand même.
Alors, si Arsenal était la moins bonne des quatre équipes, je pense que quand même le Real aurait perdu contre tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas sur un bon Real cette année. Mais c'est vrai qu'il y a eu une forme, on va dire, d'euphorie après, notamment le 3-0. Declan Rice était un peu euphorique aussi après son doublé incroyable à domicile. Ils ont éliminé le Real. Et derrière, quand vous faites en tout cas un exploit, Arsenal, finalement, ils ont encore moins d'expérience européenne que le PSG. C'est une finale en 2006 perdu face au Barça, mais le club qui peut-être avait le moins d'expérience à ce stade de la compétition, et moi je les ai trouvés vraiment très décevants, et c'est vrai que c'est même Même à l'époque d'Arsène Wenger, en tout cas, ça ne gagnait pas. Ou en tout cas, mis à part le titre des Invincibles, évidemment. Mais en tout cas, en Europe, ça n'a pas gagné. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu dans la déclaration d'Arteta. Bon, bah, vous voyez, on joue très bien quand même. Mais ouais, bah, en fait, ça marche quand même pas. Donc, c'est un peu décevant, en tout cas, de voir les Gunners à ce stade-là. Quand même.
Vous faites sourire Carlos. Hein.
Au football, c'est pas une question de bien jouer. Au football, c'est.
Bah, ouais, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous, Carlos, hein, de toute façon. Donc.
Annie, il avait tenu une conférence de presse de très naïve de Junior. Il avait dit comme on a battu le favori de la compétition, c'est nous désormais les favoris. Mais si tu le penses, ne le dis jamais.
Voilà.
Et il a basculé dans le côté émotionnel. Il a mis une pression de folie sur ses joueurs qui n'ont pas réussi à être à la hauteur de l'événement. On a vu que les 20 premières minutes, en fait, ce qui les condamne dans cette double confrontation, bon, il y a d'autres choses, mais c'est surtout les 20 premières minutes.
En match aller.
Ils ont été hyper surpris et ils ont pris un but, quoi.
Ouais, ouais. Et après, un coup sur la tête, surtout.
Sous cette double confrontation, Paris n'a jamais été mené contre Arsenal.
Mais Paris d'ailleurs, ils reprennent un coup sur la tête hier, finalement.
Ouais.
Ils reprennent, en fait, en prenant le but de Fabian Ruiz, derrière, ils n'arrivent même pas en fait, à se rebeller, alors qu'ils avaient fait 25 premières minutes qui étaient vraiment très bonnes. Bon, certes, ils ne marquent pas. Certes, Donnarumma fait quelques arrêts. Mais derrière, normalement, un club de cette facture, de cette stature et de cette ambition doit être capable quand même de réagir. Quoi.
C'est vrai qu'ils sont qualifiés depuis la quatrième minute de la double confrontation. Paris qualifié.
Ah oui, le PSG. Oui, bien sûr.
Je me permets parce que à juste titre, Cédric évoque un club qui a l'ambition d'Arsenal, très bien. Mais et c'est terrible, comment je vais le dire. Mais quand vous voyez les joueurs qui sont alignés. Alors Saliba, je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que beaucoup de clubs voudraient l'avoir.
Fort,
Saliba. Un Declan Rice. Après, il y a beaucoup d'équipes qui voudraient l'avoir. Un Bukayo Saka sur le côté droit, ça peut aider. Quand vous voyez les autres joueurs, en toute objectivité, Odegaard et un ton très en dessous de ce qu'il a pu montrer par le passé. Martinelli, Merino joue pas à son poste. Partey est un ton en dessous aussi. Et quand il y a d'autres joueurs, même Raya dans la cage, quand je suis un très grand, un Real, un Barça, un PSG, je vais pas prendre ces joueurs-là.
Non.
Arsenal, c'est un club plus, mais c'est pas un plus que sont les autres noms que j'ai évoqués.
Carlos, il y a eu beaucoup d'éloges bon, pour les buteurs, évidemment, hier, qui n'étaient pas des attaquants, d'ailleurs, hein, tant Fabian Ruiz qu'Achraf Hakimi. C'est Achraf Hakimi qui a été désigné homme du match, avec son joli petit globe plein d'étoiles. Mais pourtant, nous, en préparant l'émission, on se disait quand même, celui qui, et on n'est pas les seuls, hein, qui crevait l'écran, c'était quand même Donnarumma hier, non ? C'est le gardien, même, qui a un rôle essentiel hier soir, non ?
Je pense que sur les deux matchs,
bien sûr.
Sur les deux, parce que là-bas aussi, il a fait 3-4 arrêts incroyables. Jamais Donnarumma, je pense, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il était à ce niveau-là.
Je crois que c'est les clubs anglais qui motivent bien. L'Angleterre, d'une façon générale, depuis l'Euro 2021.
C'est depuis quand même, pardonnez-moi Carlos, juste, je me permets, c'est depuis ce fameux geste, cette blessure contre Singo, depuis ce moment-là. Il a cette balafre, il est devenu incroyable, quoi. C'est
mais
incroyable,
il le raconte, d'ailleurs, hein, vous avez vu.
Il avait raté un geste quand même, hein, face à Harvey Elliott en match aller. Justement, c'est peut-être
l'esprit
revanchard derrière au match retour.
Mais il a expliqué que cette cicatrice lui donnait l'air méchant et qu'il l'était devenu. Bon, Carlos, ça vous amuse, je vois bien, je suis désolée.
J'ai plein de cicatrices dans les jambes.
Carlos, et ça vous a pas rendu méchant ?
Ce que vous n'avez pas aimé hier, c'est le penalty tiré par Vitinha.
Moi, je suis contre le droit de l'attaquant ou de celui qui frappe le penalty de s'arrêter dans la course. Je suis contre. Il faut être correct vis-à-vis du gardien. On ne peut pas tricher. Mais là, de la façon qu'il a frappé, pour moi, il le prenait à la rigolade, le gardien. Il arrivait au ballon, il n'avait même pas la force pour frapper le ballon.
Ben, comme il attend que le gardien choisisse à côté et qu'il attend son dernier pas pour le
et
faire...
Et que le gardien le savait.
Et que le gardien le savait et que le gardien n'a pas bougé, ben son dernier pas, forcément, il n'a plus d'élan, il n'a plus de force. Puisqu'il est au dernier pas. S'il venait de trois pas, il pourrait encore frapper. Mais il pourrait mettre de la puissance, là, il n'a plus rien. Donc il a fait une petite frappe qui était un peu vicieuse. Hein, mais
je suis contre l'arrêt.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Il
ne
faut pas qu'il s'arrête. Quand tu démarres la course, tu dois frapper.
Neymar est un grand spécialiste de ça, quand même.
Ce qui est fou, c'est
il a raté des pénalties, Neymar aussi.
Oui, mais il ne s'arrête pas en plus.
Ce qui est fou, c'est que Raya a une réputation d'être très mauvais gardien sur les pénalties. Vraiment très où il plonge même avant. Je vous assure, il a cette réputation de quasiment plonger avant, tellement il n'y arrive pas sur les pénaux. Et là, pour une fois, il a vraiment attendu dernièrement, ce qui a perturbé Vitinha, semble-t-il.
Imagine, là, on rigole. Hein. Mais tu t'imagines si Paris est éliminé ?
Non, mais c'est pour ça que là, je me permets d'en parler sur le ton.
Pour moi, j'aime pas la frappe.
Quelle lecture tactique avez-vous de ce match, Dominique ?
Que Paris a des failles, mais en fait, pour moi, les quatre demi-finalistes ont des failles. En fait, je rencontre beaucoup de gens qui me disent oui, mais Vitinha est passé à côté, tel joueur, ça. Mais en fait, il n'y a pas d'équipe parfaite, ça n'existe pas. Même City, quand ils ont gagné avec des champions il y a 2 ans contre l'Inter Milan, justement, ils n'ont pas fait, par exemple, une finale très fantastique et ils avaient quelques failles. Il y a toujours des failles dans une équipe. Il y a toujours un moment où vous êtes moins bien dans le pressing, il y a un adversaire. Paris, sur le coup de pied arrêté, par exemple, qui est une des grandes forces de l'Inter Milan, Paris, sur les coups de pied arrêtés défensifs, sont très mauvais. Même si Donnarumma sort un peu plus et s'impose un peu plus. Mais hier, sur les touches, par exemple, il hésitait. Est-ce qu'il faut sortir, pas sortir ? Il regardait tout ça, il était un peu embêté. Donc oui, ils ont des failles, mais le Barça avait des failles, on les a vues. L'Inter de Milan, qui était la meilleure défense d'Europe, a pris 6 buts. C'est quand même étonnant, ça, quand même. Donc oui, Paris n'est pas parfait. Mais après, si on parle sur l'ensemble... Pour moi, Paris est l'équipe la plus solide, la plus homogène, on va dire. Pour moi, c'est celle qui attaque le mieux et qui défend le mieux. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, hein, mais vu que c'est ces deux secteurs-là qui comptent, je trouve que c'est celle qui attaquera le mieux et c'est celle qui défendra le mieux. Et donc, je lui donne un petit avantage en finale.
Salut.
Écoute. Oui, c'est vrai qu'il y a des défauts, et Dominique les a bien décrits, hein, dans cette équipe du PSG. Mais encore une fois, à l'Inter aussi, on voit défensivement des qualités, même de courage et précisément d'abnégation de cette défense. Mais de l'autre côté, ils prennent et ils concèdent énormément d'occasions, quand même, l'Inter. Vous allez me dire, c'était le Barça en face, mais même le tour précédent contre le Bayern. Alors, c'était le Bayern en face, mais aussi beaucoup d'occasions concédées. En fait, sur chaque match, l'Inter concède énormément d'occasions, mais il y a un Yann Sommer. D'ailleurs, ce sera sans doute un duel dans le duel. Donnarumma, Yann Sommer, alors que c'était des gardiens qui, par le passé, récent pour Donnarumma, un peu plus ancien pour Sommer, étaient très critiqués, et les deux sont en train de nous sortir une Ligue des Champions phénoménale. Ça sera un duel dans le duel, d'ailleurs. Ça, pour le coup, ça fait partie des qualités des deux équipes.
Tout à fait. Carlos ?
Non, moi, je pense que même la finale, là, Paris, il va avoir le ballon les 90 minutes.
Oui.
Et l'Inter de Milan, il va attendre à pouvoir placer un ballon avec Thuram.
Oui. Thuram.
Thuram,
le fils Thuram.
Ticu sur la
pelle. L'attaquant. L'attaquant, parce que l'autre, c'est un milieu.
Exactement. Oui, mais l'autre, il ne joue plus.
Mais je dis, il va voir le ballon, mais parce que les Italiens, eux-mêmes, ils vont le laisser le ballon.
Ah ben, la défaite du Barça mardi soir, c'est 70% de possession. Pour le Barça. Donc ça veut dire que ça les arrange.
Mais il faut avoir un tiers d'occasion plus.
À un moment donné, il faut avoir la chance. Parce que si le petit marque le but à 3-3,
il y a mal,
sur le poteau,
mal,
c'est fini, on ne parle plus.
Et oui.
On parle de Barcelone.
Et c'est sur la contre-attaque qu'il y a but.
En tout cas, cette qualification était attendue. Vous y faisiez allusion, Salim, c'était vrai qu'à l'été 2020, on sortait tous un peu sonnés de cette période bizarre du Covid. On ne savait pas trop. L'équipe était là-bas, à Lisbonne.
J'étais
une espèce de tournoi. Oui.
C'était effectivement très étrange.
Et ici, c'était étrange aussi, Dominique. Hier, les supporters ont donc déjà fait la fête dans les rues de la capitale. La joie, la fête, le soulagement et des supporters super heureux. Ils étaient au micro de notre reporter dans les rues de Paris, Baptiste Leduc.
Merci Paris, on est en finale ! Ouais ! Merci Paris ! Allez Paris !
Allez Paris !
Allez Paris ! Allez Paris !
C'est une ambiance de dingue. On attend ça depuis la remontada. Mon avis, c'est que cette année, j'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti.
Là, on arrive en finale. Et on va prendre la coupe cette année, c'est pour nous les gars.
On a pris toutes les équipes de Première Ligue.
On a éliminé la Première Ligue.
C'est même pas qui a marqué le deuxième but.
Hakimi.
Mais non.
Hakimi.
Achraf Hakimi.
Le meilleur latéral du monde. Hakimi. Meilleur latéral droit. Hakimi.
Cette année, on est dans la finale. Direction Munich, Inter, Bayern, Barça, n'importe qui. Envoyez-nous qui vous voulez en finale. Cette année, le PSG est déterminé à aller la chercher.
Et merci. Merci, Luis Enrique.
Merci. Merci, Luis.
Merci, Lucho.
Merci, Paris.
Merci, Hakimi.
Merci, Hakimi.
Merci, Hakimi.
Merci, Hakimi.
Un rendez-vous en finale, les gars. On va la ramener à Paris.
Allez, Paris.
Cédric de Oliveira, vous les avez vus, vous aussi, vous les avez croisés, hein, tous ces supporters, mais vous n'avez pas fait la fête cette nuit.
Ah si, bah après, on a, en tout cas, on a travaillé et puis après, on a été eh bien, voir les supporters. Et non, mais je vous parlais de communion tout à l'heure et de voir en tout cas la joie de ces supporters, encore une fois, qui ont beaucoup, beaucoup espéré cette Ligue des Champions.
Et
qui
vont souffert.
Pouvoir, en tout cas, voilà, qui vont pouvoir en tout cas profiter de cette finale, puisque vous l'avez dit, en 2020, c'était très particulier. Et voilà, il y aura 18 000 ou plus supporters à Munich le 31 mai et eh bien peut-être que ce sera la plus belle histoire, en tout cas la plus belle page de l'histoire du club de ce PSG face à l'Inter Milan.
Qui sait ? Merci beaucoup Cédric de Oliveira d'avoir été en direct dans Radio Foot avec
merci
nous.
Merci à vous.
Et bon repos. On continue nous dans Radio Foot parce que malgré tout, il y a eu cette finale disputée en 2020 et là il y aura cette finale. Est-ce qu'on peut les comparer, Dominique ?
Non, ça n'a rien à voir.
La qualification, je ne parle pas, même pas de la finale, mais la qualification. Effectivement, le contexte est complètement différent.
Le contexte est différent.
On
est dans une nouvelle formule où Paris et l'Inter vont disputer leur... Non, Paris va disputer son 17e match parce que Paris est passé par un tour de barrage. Mm-hmm. Ils vont disputer... Donc, il y a 34 journées en France en championnat. Donc, ils ont disputé... Quand ils vont jouer le 31 mai, ils auront disputé la moitié d'un championnat de France.
En Ligue
des Champions, c'est 17 matchs pour en arriver là. C'est du jamais vu, quoi. C'est incroyable. Et dans 17 matchs, donc vous avez toute la fin anglaise, je trouve que c'est des adversaires colossaux. Moi, on me dit ils ont pris Liverpool quand Liverpool commençait à sombrer. C'est pas vrai. Salah, une semaine avant, c'était pour moi Ballon d'Or. Tout le monde disait il est incroyable, c'est un joueur fantastique, et il l'est. Hein.
Il fait la une de France Football, d'ailleurs.
Tu sais qu'est-ce qu'il me rappelle? Je me rappelle un petit peu l'Ajax, hein, quand il était champion d'Europe.
Ouais.
Le championnat hollandais, c'était l'entraînement. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est de l'entraînement, le championnat.
Ouais.
Il n'y a pas de match.
C'est vrai.
Avant Carlos... le match, tu dis, ils vont finir comment ? 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas marrant. Alors, il faut faire la part des choses. Ils ne se fatiguent pas en championnat. Par contre, Liverpool en championnat, ils se fatiguent.
Ah oui, oui, oui.
Barcelone et Real Madrid, c'est fatigue, championnat espagnol.
On peut renverser l'argument, Carlos. On peut dire, vu que la Ligue 1 ne prépare pas aux grandes soirées européennes avec une intensité, de l'impact, vu que Paris n'est jamais préparé à ça parce que ni Monaco, ni Marseille, ni Lyon, ni Lille ne les challenge, quand ils vont rencontrer Arsenal, Liverpool, l'Inter de Milan, City, ils vont être perdus. Or non, ils sont pas perdus.
Non, mais. Eh ben, alors justement.
T'as dit 17 matchs. Excuse-moi. T'as dit 17 matchs jusque là. Et c'est le championnat. C'est un championnat.
Ah 17 matchs. Ah oui, mais c'est
tu peux pas deux matchs par mois.
Alors justement, vous parlez des clubs anglais. C'est vrai que cette année, eh bien, ou éliminé ou battu, le Paris Saint-Germain s'est un peu délecté. Excusez-moi de le rappeler. Manchester City, Liverpool, Aston Villa et donc Arsenal. Alors là, ils tomberont sur des Italiens. Alors on va peut-être à présent oublier les moqueries parce que la Ligue 1, eh bien, hormis le Paris Saint-Germain qui est souvent présent, on parlait d'une Farmer League, n'est-ce pas ? Alors la Ligue des fermiers, c'est une traduction gentille.
Non, c'est ça. Hein, c'est plutôt les paysans.
Ah ouais, voilà, voire les bouseux. Hein, moi, j'aurais osé le dire. Eh bien, écoutez, parce que Luis Enrique, évidemment, hier, on lui a posé la question et il en sourit, Luis Enrique.
The League of Farmers, no? We are the League of Farmers.
Oui, on est la Ligue des fermiers, la fameuse Farmers League. Mais parfois, vous savez, c'est agréable. Là, on profite non seulement du résultat, mais aussi des compliments de tout le monde qui parle du beau jeu de notre équipe. On est une équipe de jeunes, mais les mentalités, le caractère et aussi notre manière de jouer au football, je pense que c'est plutôt sympa, non ? C'est même génial, je crois. Allez, je dois féliciter mes joueurs parce qu'ils sont formidables.
Great. Alors nous, on le félicite, Luis Enrique, et en plus, il n'était pas encore minuit hier quand s'est terminé le match et les interviews. Mais comme il est plus de minuit aujourd'hui, c'est son anniversaire, et on lui souhaite un bon anniversaire.
C'est pas le seul, Annie.
C'est pas le seul.
Félicite à
notre Annie aussi, c'est son anniversaire.
Parce qu'entre Luis Enrique et Annie Gassier,
joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Annie. Joyeux anniversaire.
Merci. Bon, et joyeux anniversaire à Luis Enrique.
Oh, c'est toi, Annie. Hein.
Est-ce que le Paris Saint-Germain pourrait jouer dans la Farmer en dehors de la Farmer League, en première ligue,
non,
désormais?
Ce qui est un fait, et c'est très factuel, à un moment donné, vous avez le PSG qui a battu le champion d'Angleterre, le PSG qui a battu le deuxième, le PSG qui a battu l'actuel troisième, Manchester City, et Villa qui est en course pour la Ligue des Champions. Donc, en fait, c'est que le PSG a ce niveau large pour être en Première Ligue, surtout en Première Ligue, le championnat le plus relevé, etc. Après, moi, je me permettrais de renverser un petit peu le propos de Luis Enrique quand il évoque la Farmers League. C'est vrai que c'est un propos moqueur, hein, souvent de la Première Ligue, et pas que des Anglais. D'ailleurs, même parfois, les Français même se moquent du championnat de France en disant c'est la Farmers League, sont entendus à la Ligue des Bouzeux. J'insiste, c'est le PSG qui l'a fait, c'est factuel, a battu ses clubs anglais. Maintenant, quand je vois les autres clubs français, cette année, Monaco, Lille...
Moi, je voulais dire, le PSG allait jouer en Première Ligue.
Oui, mais aujourd'hui, quand vous avez le niveau du PSG, évidemment, vous pouvez être en Première Ligue, vous pouvez être très haut en Liga,
ils ont
vous pouvez être
plus
très
de
haut
points,
en Serie A.
Ils ont marqué plus de points, paraît-il, que Manchester United, je crois.
Oui, bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui marquent beaucoup plus de points que Manchester United.
Dans n'importe quelle Ligue d'Europe, Paris Saint-Germain, il peut être parmi les trois premiers.
Demain, si on fait une Super Ligue, peut-être que le PSG, ça affecte très haut.
Pourquoi pas.
Mais oui.
Il était 25e pendant longtemps.
Mais je me permets de retourner encore une fois le truc, c'est que cette fameuse Farmers League. Aujourd'hui, vous avez le PSG qui est tellement au-dessus, c'est un fait, mais les autres sont tellement loin du PSG, vous avez l'impression que le PSG représente la Ligue 1. Non, le PSG représente le PSG et les autres sont tellement loin.
L'économie. La différence économique.
Bien sûr.
C'est tellement incroyable entre le en France
et elle risque de s'aggraver, Dominique.
En Angleterre, les 4-5 premiers ou 5-6 clubs jouent dans la même catégorie.
Absolument.
Je pense que ça. Liverpool a un budget comme Chelsea, qui a à peu près le même budget que City, qui a à peu près le même budget que. Même Aston Villa, c'est pas un petit club.
Bien sûr.
C'est un gros budget. Aston Villa serait directement le deuxième budget de la France.
Totalement.
Derrière le PSG. Donc Aston Villa jouerait le titre aussi. Le problème du championnat de France, c'est pas le PSG, c'est qu'il n'y a pas assez de PSG.
Totalement.
Oui, et puis le problème, on voit bien, est financier. On voit tous les problèmes de.
Ah ben ça va pas s'arranger.
Budgétaire et de retransmission. Oui, je crois que maintenant on risque d'avoir une
vraiment,
époque
quand il évoque cette Farmers League, je me permets d'insister. Alors lui il le dit avec le sourire et il a raison, ils ont battu les principaux clubs anglais, donc il a raison de dire.
Il aime bien chambrer en plus,
mais il était détendu là.
Et il a 100 fois raison de faire. Maintenant on a envie de dire, voyons sur le moyen long terme, parce que les clubs anglais oui ont été balayés, c'est un fait. Attendons sur les 2, 3, 4, 5 prochaines saisons.
Voir en Ligue Europa. Carlos, en tout cas, il y a une chose évidente, c'est que depuis l'automne dernier où on avait vu Arsenal marcher sur Paris, ridiculiser Paris dans son stade avec un score de 2-0, mais où vraiment Paris avait tout raté cette fois-là, même si le jeu déjà commençait un tout petit peu à apparaître, Luis Enrique a fait un travail phénoménal avec son équipe.
Il a fait le travail le plus important. Qui doit avoir un entraîneur. Un entraîneur, il doit convaincre de ce qu'il veut et arriver à les convaincre. C'est là la question. Et il a pris du temps. Mais aujourd'hui, Paris Saint-Germain, il sait à quoi il joue. Et il va jouer toujours de la même façon comme il veut, Luis Enrique. Et ça, c'est le plus important. Mais il faut avoir aussi la qualité de ses joueurs pour arriver à un niveau si haut.
Carlos, est-ce
si
que...
lui, il était entraîneur de Celta Vigo. Celta Vigo, je suis sûr qu'il voulait faire la même chose qu'il fait ici à Paris. Mais Celta Vigo, c'était Celta Vigo.
Carlos, est-ce que c'est parce que aussi c'était des joueurs jeunes et qu'il peut un peu les modeler à son
non,
idée
non, c'est pas ça, parce qu'il y a des joueurs qui sont de l'âge, 28, 29, 30 ans, et ils sont des professionnels, ils font ce qu'ils disent, l'entraîneur.
Ouais, Marquinhos, par exemple.
Non, la question, c'est d'être tous ensemble avec ce qu'il veut, l'entraîneur. Mm-hmm. Et l'entraîneur essayait de convaincre que c'est le bon chemin.
Il y a quand même une attaque hier, Varaskelia a 24 ans, Désiré Doué 19 ans et Barcola 22 ans. On est quand même sur une moyenne d'âge de 21 ans et demi. Mmh. C'est quand même beaucoup de joueurs. Alors ça, il y a Marquinhos qui a 30 ans, il y a Dembélé qui ne jouait pas hier.
Mais tu sais quoi,
qui a 27 ans.
Non, mais le renfort de Varaskelia.
Et tu sais quoi,
oui, mais c'est 24 ans. C'est pas non plus
extraordinaire.
C'est pas non plus un joueur qui a 40 ans.
Écoute, les petits, comme tu as dit, qui sont presque tous en attaque, hein. Ils sont le physique pour pouvoir faire comme ils veulent.
Et fort,
parce qu'avec avec Neymar, Messi, Mbappé, il n'a pas arrivé à le faire.
Non, impossible.
Comprends ?
Impossible.
Dominique, vous qui connaissez le club aussi de l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur du Paris Saint-Germain ? Alors, en dehors de tout ce qu'on raconte tout le temps, c'est-à-dire plus de stars, Luis Enrique...
Je pense qu'ils ne l'ont pas fait exprès, mais quand ils ont pris Luis Enrique, ils ne se sont pas rendus compte que c'était un entraîneur qui n'était pas malléable. Je pense qu'ils ne l'ont pas pris en se disant « Bon, lui, il est intransigeant, mais sauf qu'il est comme ça. » C'est-à-dire qu'il est arrivé et on ne peut lui faire avaler aucune couleuvre. Il serait parti très vite. Donc avant, il y avait un interventionnisme énorme du directeur sportif, Leonardo, Antero Henrique, ou du président qui voulait se mêler de tout, des transferts, voire de la composition d'équipe. Un jour, on a obligé Laurent Blanc à jouer avec Serge Aurier, un match.
Qu'il avait humilié.
Alors
avant.
Que pourtant, il avait, sur des réseaux sociaux, il l'avait humilié. Là, Luis Enrique, vous ne pouvez rien lui dire.
C'est la première fois qu'il y a une si forte personnalité donc, sur le banc.
C'est
aussi,
ça.
Hein. Même Tuchel n'avait pas
non,
ce niveau-là.
Non, parce que Tuchel, il venait de Dortmund. Il avait pas, lui, il a gagné la Ligue des Champions, il a entraîné le Barça, il a entraîné une grosse sélection, l'Espagne. Il a un caractère volcanique et très sûr de lui, en tout cas en public. Et donc c'est impossible de lui faire à l'envers, comme on dit aujourd'hui chez les jeunes. On peut rien lui dire ou on ne peut rien lui faire. Donc aujourd'hui, comme dans tout club de football qui se respecte, celui qui a l'autorité et le pouvoir, c'est l'entraîneur. Et ça n'était jamais arrivé au PSG. Carlo Ancelotti, on l'a pris entre deux portes pour lui dire « Tu vas être viré si tu ne gagnes pas la Ligue 1 ». Laurent Blanc, c'était un huitième choix, il était déconsidéré. Unai Emery et Thomas Tuchel se sont décrédibilisés un peu par eux-mêmes parce qu'il y en a un qui a perdu contre
la remontada
et l'autre contre Manchester United. Pochettino, bon, je ne sais pas quelle trace il leur a laissé. Galtier, on sait très bien qu'il n'aurait jamais dû être là. Il est là parce que c'est Campos qui était arrivé dans un nouveau projet. Et donc, voilà, je vous ai fait tous les entraîneurs du PSG. Et arrive Luis Enrique, qui est le premier à avoir une légitimité, une force, et qui la maintient et qui dit à tout le monde, bah, tu ne viens pas chez moi, tu ne viens pas dans mon précaré, c'est moi qui décide.
C'est un club qui change non seulement de statut, puisqu'il est finaliste de cette Ligue des Champions, Salim, mais qui en plus est en train de changer de dimension sportive.
Mais c'est ce qu'on Dominique l'a très bien décrit par rapport à Luis Enrique. C'est vrai que cette manière de faire, déjà, on l'avait entreaperçu ces derniers mois, évidemment, avec cette fameuse politique de star, ou en tout cas de star mis de côté, entre guillemets. Donc déjà, sur le terrain, on visualisait quelque chose. D'autre part, moi, la saison dernière, je reconnais volontiers que j'avais des doutes sur Luis Enrique. Quand je dis des doutes, que même la direction le maintienne. J'entends par là, s'il y avait des humiliations qui pouvaient arriver, est-ce que Nasser, à un moment donné, n'allait pas dire...
Il a mis un peu d'eau dans son discours aussi, par moment. Hein. On se souvient de phrases cassantes où il a changé un peu.
Absolument,
là-dessus.
Mais c'est vrai que j'ai eu des doutes en me disant, mais est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va le garder, etc. Finalement, il l'a gardé. Bref, on lui a laissé du temps. Vous savez, déjà, quand vous avez un dirigeant qui, pour une fois, vous dit, on laisse du temps en public, alors qu'avec d'autres, il y a une certaine pression qui était mise sur le coach. Mais donc déjà le coach, bah lui-même, il sait qu'il a du temps pour mettre en place ce qu'il souhaite.
Et on ne saura plus, jamais ce que le PSG aurait fait si le club n'était pas sorti, par exemple, de la phase de championnat.
Absolument.
Est-ce qu'ils auraient gardé Luis Enrique ou pas, ça.
Exactement. Et jamais. En tout cas, il a pu mettre les joueurs en place et la manière de jouer qu'il voulait mettre en place. Et on voit le résultat.
Et en plus, il a la chance qu'il n'a pas des stars. Il n'a pas des stars. Dembélé, c'est pas une star.
C'est une chance pour un entraîneur de ne pas avoir de stars.
Je préfère
que star, en général, c'est un très bon niveau.
Bah, Lautaro Martinez, j'aimerais bien l'avoir, moi.
Il est très simple, lui. Il n'est pas quelqu'un qui. Martinez, oui, le centre de l'Inter.
Oui, je te crois.
Non, ce sont des mecs simples. C'est comme. Comment s'appelle l'avant-centre de l'Atlético Madrid maintenant?
Julian.
Ils sont des très grands attaquants, mais ils mènent une vie tranquille. Ils ne sont pas des vedettes. Jamais on parle d'eux.
Et ça, c'est mieux pour un entraîneur.
Pour un entraîneur, c'est extraordinaire. Parce qu'ils font leur travail et on ne parle pas d'eux. C'est extraordinaire.
Ah, c'est fantastique.
C'est la chance de l'Argentine.
Ouais.
Qu'il a plein de joueurs qu'on ne parlait pas d'eux.
Je pense que les entraîneurs préfèrent ça que Mario Balotelli, quoi. Qui faisait parler de lui assez souvent.
Il a fini sa carrière déjà.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Pas grand chose. Manchester City, quand même.
Il y a plein de joueurs, un bon moment à Manchester City.
Finale
d'Euro 2012.
Ouais. Exactement. Absolument. Ouais. On approche de la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir chanté les louanges de Paris Saint-Germain. C'était le jour, hein, aujourd'hui. Il fallait quand même parler de cette équipe finaliste.
On t'a souhaité le bon anniversaire.
Merci beaucoup, Carlos.
Tu peux pas te plaindre. Hein.
Non, je me plains pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, demain, c'est le Café des Sports. Alors, on attend déjà vos cartons pour les diffuser dans l'émission qui est à sa version télé grâce à France 24. Et les dames, bien sûr, on les attend aussi. Oui, surtout. Mais du coup, elles ont entendu votre appel, Salim. Merci à tous et à demain.